Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, nous abordons aujourd'hui la dernière émission de La Voix des Arts sur les créatrices chinoises, les pionnières au cinéma, lesquelles ont occupé diverses fonctions au cinéma ce début de XXe siècle, en tant qu'actrices, mais aussi monteuses, productrices, comme Yong Neime, ou bien comme conceptrices d'effets spéciaux et ingénieurs du son, comme Fan Xuepeng, ou de scénaristes et de rédactrices d'articles cinématographiques comme le Fi Yuping. Et nous allons terminer notre périple chinois avec Esther Heng, qui elle est née en 1914 et que l'on présente comme une sino-américaine, car ses parents ont émigré aux États-Unis. Et il est dit que c'est vraiment elle qui fut considérée comme la première femme réalisatrice chinoise, autant par les Chinois que par les Américains. Et que toute jeune, déjà à peine sortie de l'adolescence, elle a affronté Hollywood en louant un studio et en réalisant son premier film. Alors maintenant, est-ce une légende bâtie autour de cette personnalité? En tout cas, celle-ci se révèle assez particulière. Mais comme la plupart de ses concerts, cette pionnière serait complètement tombée dans l'oubli si un critique de cinéma nommé Todd McCarthy n'avait découvert en 1995 l'un de ses films, ce qui le motiva pour s'intéresser à elle. Alors que peut-on apprendre d'elle? Eh bien déjà que son père, en collaboration avec des associés, avait créé une société de production cinématographique et qu'Esther Heng fut promue coproductrice à seulement 19 ans. Alors à cette époque, dans les années 30, il fut dit que le regard que portaient les Américains sur les Chinois était plutôt positif, en partie, paraît-il, grâce à un roman de Pearl Buck intitulé « The Good Earth », « La Bonne Terre », datant de 1930, qui valorisait plutôt la résistance chinoise face à l'avancée japonaise. Et c'est dans ce sens qu'elle assurera par la suite la coproduction d'un mélodrame tourné en 1935, intitulé « Heartache », que l'on traduit textuellement par « Chagrin d'amour », dont l'héroïne féminine pleure son amour en temps de guerre et combat pour la Chine aux côtés de ses camarades masculins. Alors la première se déroulera à San Francisco et Esther Heng, en compagnie de l'actrice principale du film nommée Wei Kim Fong, partira en campagne pour promouvoir le film, et ce en passant par Hong Kong, Guangzhou et Singapour, où ce film, qui met en valeur la patrie, fait sensation en débloquant apparemment des fonds pour que Esther Heng poursuive son aventure cinématographique. Si bien qu'elle continuera sur sa lancée auprès d'un réalisateur nommé Frank Tang pour un film en cantonais, un drame sentimental tourné en 1936, intitulé Some Un. Le rôle d'Esther Heng sera encore de trouver des fonds pour la production et elle s'attachera à le faire en collaboration avec un jeune acteur nommé Bruce Wong pour ce film qui sera tourné en temps record, puisqu'en 8 jours, à Los Angeles, et l'affaire sera réglée. Alors en 1937, elle a 23 ans et se trouve dans la ville de Hong Kong. C'est d'ailleurs le moment où la Chine entre réellement en conflit avec le Japon. Aussi réalise-t-elle un film intitulé « Héroïne nationale », un petit peu dans la suite du film « Chagrin d'amour », qui relate le périple guerrier d'une femme pilote se battant pour son pays. Et le succès est au rendez-vous. Aussi enchaîne-t-elle avec 2 autres films, tous 2 sortis en 1938, l'un intitulé « 10 000 amants » et l'autre « Tempête d'envie ». Bon, je pense que l'on peut deviner le sujet, même si je n'ai pas d'informations complémentaires à vous apporter. Et dans la foulée, elle co-réalise 2 autres films, « Une nuit de romance » et « Une vie de regret ». Alors à ces moments, elle travaille avec 4 sociétés cinématographiques et ce sont surtout des films à vocation sociale, axés sur les femmes et leurs relations avec la société. C'est ainsi qu'en 1939, elle décide de créer et réaliser un monde de femmes où sont mises en scène des femmes exerçant une profession, lesquelles sont au nombre de 36 et qui dépeint en même temps les difficultés que les femmes qui travaillent rencontrent dans la société de l'époque. Or, je vous propose de faire une petite pause musicale et que nous écoutions partie d'un classique de la musique chinoise qui s'est répandu dans toute la Chine, composé en 1939 par le chinois Xian Xingai. Il s'agit d'un concerto intitulé « La cantate du fleuve jaune ». Cette œuvre s'inspire d'un poème patriotique d'un poète et militaire nommé Guang Weirand, qui invite les Chinois à prendre les armes contre les Japonais pour défendre leur pays. Alors revenons à Esther Heng, son parcours à elle semble être un parcours sans rugosité, avec des portes qui s'ouvrent facilement malgré sa jeunesse et son inexpérience parfois. C'est ce qui est souligné Alors à quoi peut-on l'imputer ? Peut-être aux aspects de sa personnalité, plutôt amicale, enjouée ou sûre d'elle. En tout cas, elle est attractive, même son apparence séduit, malgré le fait qu'elle a l'habitude de s'habiller en homme. Mais c'est plutôt bien perçu et accepté là où elle évolue. C'est la mode de garçon des années 30, hein, sans doute. Quant à ses inclinaisons sexuelles, qui se révèlent être celles d'une lesbienne, elles sont aussi bien acceptées, hein, comme le soulignait la presse. Bref, elle trace son chemin avec aisance et facilité. Et c'est en 1939 qu'elle retournera aux États-Unis pour se tenir au courant des dernières évolutions cinématographiques. Et c'est dans la foulée qu'elle réalisera en 1941 un film intitulé « Fille de la porte dorée » qui relate les efforts d'une communauté chinoise à l'étranger pour récolter des fonds afin de participer au soutien de la Chine face au Japon. Et elle aurait intégré dans ce film des séquences de documentaires. Or, pour la suite de ses activités, elle décide de réaliser des films en langue chinoise aux États-Unis, possiblement, en raison de coûts de production moins importants dans ce pays. Elle créera son entreprise de cinéma, le Silver Light, et produira deux films, l'un intitulé Ruelle, de 1948, d'après le roman de 1931 du même nom de la romancière américaine Fanny Hurst, dont l'intrigue implique la communauté sino-américaine dans deux villes, l'une chinoise et l'autre américaine, et le tout sur fond d'amour insatisfait, surtout ressenti du point de vue féminin. Puis ce sera en 1949 une romance interraciale intitulée Mad Fire, Mad Love, que l'on peut traduire textuellement par « Feu fou, amour fou ». Et ensuite, elle cessera ses activités cinématographiques un peu par force, car la fin de la guerre civile rapatrie bon nombre de Chinois en Chine. Et elle, par contre, restera à New York et développera l'entreprise de distribution de films de son père en ramenant aux États-Unis les films hongkongais. Et elle ouvrira dans la foulée un restaurant que fréquenteront des artistes du théâtre et du cinéma. Puis, elle dirigera un théâtre où se produiront les opéras cantonais et qui sera également un lieu de diffusion de films chinois. Et elle décédera relativement jeune, à l'âge de 55 ans, d'un cancer. Eh bien, nous en avons terminé avec les Chinoises et nous allons faire un bond dans l'espace pour nous retrouver aux Philippines. Eh oui, aux Philippines, car dans ce pays, j'ai trouvé des pionnières au cinéma, ou plutôt une pionnière, mais nous verrons cela sous peu. Or, puisque nous sommes maintenant aux Philippines, vous savez sans doute que les Philippines forment un archipel situé dans le sud-est de l'Asie, entre l'Indonésie et la Chine. L'archipel est constitué d'îles plus ou moins proches les unes des autres. La capitale en est Manille. De nombreuses ethnies avec des dialectes spécifiques auxquels se sont rajoutées des influences indiennes, chinoises, espagnoles, forment une population métissée. Cependant, la langue officielle est le filipino et l'anglais. Et pour cette dernière langue, elle est le fruit d'une occupation américaine pendant la première moitié du XXe siècle et qui a réussi à détrôner l'espagnol malgré la conquête espagnole au XVIe siècle et trois siècles d'occupation. Et la religion fortement dominante serait le catholicisme. Alors évidemment, je me suis intéressée à la culture de ce peuple fortement métissé. Il en ressort que les formes d'expression artistique le sont aussi et qu'il est difficile de l'aborder en trois mots. Or, ce que j'ai retenu surtout, c'est que la danse, en présentant une grande diversité, est une forme d'expression largement diffusée dans toutes les strates de la société. Or, la danse accompagne des cérémonies, notamment religieuses, exprime tous les aspects de la vie courante, se veut aussi parfois une ode à la nature sous toutes ses formes. Quant à la musique, il semblerait qu'elle révèle globalement deux formes différentes. Une provenant des anciennes traditions de l'Asie du Sud-Est, avec des sonorités de sitar, de luth, d'instruments populaires, et l'autre serait plus occidentale, issue de la tradition européenne du XIXe siècle. Or, je vous propose déjà de faire notre entrée aux Philippines par l'intermédiaire de sa musique populaire. Vous ne verrez pas les danseuses, mais peut-être pourrez-vous les imaginer. En tout cas, vous avez déjà de quoi vous mettre dans l'ambiance avec ce que vous avez à entendre. En revenons à la culture et l'expression artistique aux Philippines. Alors pour la littérature, j'ai lu dans un rapport de l'UNESCO que si avant l'arrivée des Espagnols, la production se composait souvent de poèmes, d'histoires autour de mythes ou de légendes en partant de l'existence quotidienne, elle ressurgira surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle pour s'épanouir au travers de la multiplicité des langues et notamment l'anglais. Or, les Philippins, comme dans toutes les cultures, s'expriment au travers de la peinture. Ils gravent et sculptent également. L'artisanat et l'art populaire témoignent de cette réalité dans des objets et également pour le passé au travers de la décoration d'églises ou de l'imagerie religieuse. Donc voilà en gros pour vous présenter le lieu dans lequel va naître notre pionnière du cinéma. Et justement, qu'en est-il donc du cinéma? Alors, il s'avère que le pionnier se nomme José Nepomuceno, qui, issu de la photographie et avec son frère Jesús, a fondé en 1917 un studio de cinéma, la Malayan Movies, et il réalisera deux ans après, en 1919, le premier film philippin que l'on peut traduire en français par « Jeune fille de la campagne ». Quant à notre pionnière, qui se nomme Isabelle Acuña, qui elle est née en 1904, elle accompagne d'abord sa sœur, Luisa Acuña, vedette du film justement tourné par José Nepomuceno. Et il se trouve qu'un an plus tard, elle l'épouse et ainsi devient Isabelle Nepomuceno. Et c'est ainsi que par le mariage, et à l'âge précoce de 16 ans, elle entre dans le milieu cinématographique, et ce, pour s'y investir pleinement. car elle deviendra une aide véritable, l'associée la plus proche de son mari. Elle réglera tout ce qui sera nécessaire au bon déroulement d'un tournage. En premier lieu, elle le fera dans les coulisses, en tant que costumière, maquilleuse, également décoratrice, recherchant, paraît-il, assidûment, par tous les moyens à sa portée, des sources d'inspiration, autant que les éléments nécessaires à optimiser la mise en scène. Elle contrôlera également la cohérence, la clarté et la correction des textes introduits dans la fiction qui participent à la compréhension des films muets. Elle s'occupera aussi des castings et même de la trésorerie. Bref, elle agira sur tous les tableaux, à tous les postes clés essentiels de la bonne marche de l'entreprise. Et malgré tout, ce travail de fourmi qu'elle fournit sera généralement passé sous silence par la presse pour plutôt mettre en avant son état de femme et ses fonctions d'épouse ou de mère, d'autant plus qu'elle mettra au monde 8 enfants. Et certains de ceux-ci deviendront à leur tour acteurs, voire réalisateurs reconnus et réputés. Alors en 1931, la Malayan Movies sera dissoute, remplacée par la Malayan Pictures Corporation, offrant apparemment davantage de possibilités. En 1932, Isabelle de Nepomuceno, qui a maintenant 28 ans, en deviendra la vice-présidente et ce sera, paraît-il, pour s'investir encore pleinement dans de longues heures de travail, pour préparer, choisir les scénarios, proposer des idées et marquer sa présence sur le plateau, si bien qu'un critique de cinéma nommé Joe Quirino la surnommera la main droite et la main gauche de son mari. On peut dire que Isabelle Acuna a laissé une trace bien prégnante de son passage dans cette industrie naissante et qu'à ce titre, elle mérite bien d'être comptée parmi ses pionnières qui ont contribué à l'avènement du cinéma dans le monde. Eh bien, c'est avec Isabelle Acuna Nepomuceno que nous achevons cette émission, mais ce n'est que partie remise, car nous retrouverons nos créatrices pionnières au cinéma, mais sous d'autres cieux, et je vous en réserve dès lors la surprise. En attendant, merci de votre écoute de La Voix des Arts. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.